France Inter.
Bonjour Frédéric, c'est Laura, je viens d'écouter en podcast la rediff avec les comédiens de doublage et je pense que j'avais pas assez pris conscience de toutes les problématiques, donc merci déjà pour ça. Et je voulais remercier aussi Brigitte Cordier parce qu'elle anime grâce à un petit podcast Les Bestioles toutes les soirées de notre fils Achille qui adore l'écouter. Voilà, allez, bonne continuation.
Salut Frédéric. Salut à toute l'équipe, c'est Émilie. Je rebondis sur l'émission Cowboy Bebop qui a bercé la fin de mon adolescence puisque j'avais 16 ans à l'époque et c'est vrai que ça m'a mis une grosse claque. J'étais totalement fan et je pense que ça a beaucoup joué sur ma recherche aussi dans les hommes parce que je cherche un Spike désespérément. Voilà. Allez, merci et bon courage à tous pour cet été.
Ouais, bonjour Bob Buster, bonjour Frédéric. Bon, je crois que j'ai jamais vu de film de gladiateur et que j'ai jamais vu un monsieur tout nu. Mais j'étais très content de voir les films des Az. Voilà, et surtout, j'espère pas spoiler si vous mettez ce message. Je crois que c'est un des Zucker ou Abraham qui a réalisé le film Basketball. Avec dedans Matt Stone et Trey Parker, les papas de South Park, donc il y a peut-être un lien aussi entre la connerie des uns et la connerie des autres. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et bonne émission, des bisous et bon 14 juillet.
To be or not to be.
Elles sont passées où, les comédies du dimanche soir à la télé? Moi, je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où tu pouvais pas arriver au bout de ta semaine sans avoir eu droit à un film de Louis de Funès, un film de Pierre Richard, Les Charlots, Les Inconnus, la saga des y a-t-il un pilote, y a-t-il un flic? Moi, petit, je voyais plus souvent Louis de Funès que ma mère. À quel moment les chaînes se sont dit que les programmes courts à la scène de ménage, c'était suffisant pour remplir les quotas d'humour à la télé? Même au cinéma, il y a de moins en moins de comédies. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, s'il arrive un accident à Philippe Lachaud, Didier Bourdon et Christian Clavier, la comédie française sur grand écran disparaît totalement. Hein. Un attentat au Festival d'Humour à l'Alpe d'Huez et finito la bamboche. Hein. Il va nous rester Jean-Pascal Zadi, mon gars sûr, et peut-être Quentin Dupieux pour les puristes qui ont besoin d'avoir leur humour emballé dans du décalage pour se marrer. Remarquez, le constat n'est pas plus reluisant chez les humoristes. Hein. Tu parles de politique, tu dégages. Tu parles pas de politique, mais t'as un bonnet et une barbe, tu dégages. T'entends plein de gens dire aujourd'hui « Ah, mais de toute façon, les humoristes d'aujourd'hui, ils me font plus rire !» Et quand tu leur demandes la dernière fois où ils sont allés voir quelqu'un en spectacle, ça remonte à l'époque où il y avait encore des Minitel et des cabines téléphoniques. Le dessin de caricature, on a vu où ça menait. L'humour est en fait devenu une espèce menacée dans les médias publics. Par contre, sur le net, c'est l'Eldorado. T'as plus d'humoristes à la seconde que de punaises de lit dans un fauteuil de cinéma. Les plateformes de streaming ont des tonnes de spectacles de stand-up venus du monde entier, des pléthores de comédies financées pour pas cher. En gros, le rire est comme certains articles de presse désormais. Le reste de cette blague est réservé à nos abonnés.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Ses cheveux avaient les reflets d'or des tableaux de l'école vénitienne. Elle avait une série de courbes hallucinantes et le genre de jambes qu'on voudrait prendre à son cou. Elle m'a lancé un regard qui a transpercé ma poche revolver. Oui, l'affaire prenait très très bonne tournure.
Voilà ce que vous demandez. Le registre des employés et des mouvements de bateaux sur le quai 32.
Merci.
La vie d'un policier est dangereuse, est-ce qu'on dit?
Eh oui, c'est pourquoi j'ai un gros pistolet.
Vous ne craignez pas qu'il parte quelquefois tout seul?
Avant, j'avais ce problème.
Comment l'avez-vous maîtrisé?
Il suffit que je pense à ma mère.
Il existe des films qui n'ont aucune autre prétention que celle de nous faire rire. Gags visuels ou trans-slapstick qui empruntent autant au cinéma muet qu'aux gags tarte à la crème des clowns de cirque, le cinéma Zaz, du nom des producteurs Zucker, Abraham Zucker, s'est fait connaître en devenant le spécialiste de la parodie des films à succès. de Y a-t-il un pilote dans l'avion à Hot Shot ou même Scary Movie, ces films dits très cons sont devenus des objets cultes qui ont fait rire des générations entières de spectateurs. Pour revenir sur ce pan souvent boudé du cinéma, je suis en compagnie de François Coe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mad Movies, créateur du podcast Discordia et co-auteur de Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis, aux éditions Façonnage.
Tout à fait, merci pour l'invitation.
Et on est ravis. Avec nous, Stefano D'Arquino, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité.
Vous êtes programmateur à la Cinémathèque française à l'origine de la grande rétrospective Zaz en octobre dernier.
Tout à fait.
Et avec nous de retour, Salim Ramani, bonjour.
Bonjour.
Vous, alias Rebeu des Bois Chronicles, youtubeur, cinéma et série depuis 10 ans.
Yes.
Excuse me, sir.
Excusez-moi, nous avons un problème dans le cockpit.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une boîte à l'avant de l'appareil où on met les pilotes. Mais là n'est pas le sujet. Le copilote est souffrant et le commandant a besoin de quelqu'un pour la radio.
Do you know anything about planes?
Vous avez déjà piloté ?
Oui, pendant la guerre, mais il y a très longtemps.
I wouldn't know anything about it.
Ah, depuis, j'ai dû oublier.
Would you go up, please?
Mais vous ne voulez pas essayer?
Alors, que représente l'esprit des films Zucker, Abraham, Zucker, François Coe?
À titre personnel ou en général?
En général.
En général. C'est un groupe comique qui a réussi à faire la synthèse pas parfaite, pas chimiquement pure, justement, c'est ça qui est intéressant, mais entre un certain non-sens qui était plutôt accolé à l'humour britannique, les Monty Python, etc., à l'héritage slapstick, comme vous le disiez, un humour physique parfois très violent, et le jeu de mots, et tout ça, en fait, avec une énergie et une intensité qui, personnellement, a complètement chamboulé mon rapport à la comédie, en fait. J'ai découvert ces films-là très jeune, trop jeune, sûrement, mais c'est pas grave, et je me suis dit, en fait, la comédie, c'est ça. Et je voyais d'autres comédies derrière qui étaient beaucoup moins intenses, beaucoup moins énergiques. Et je me disais, mais il manque quelque chose, en fait. Mais c'est qu'ils sont arrivés, justement, à une intensité comique. Vraiment, c'est le terme que je retiendrai, alors qu'il y a plein, qui vient de plein d'endroits, hein, où ils s'inspiraient de la parodie, ils reprenaient, il y avait déjà eu quelques éléments parodiques dans le cinéma de Mel Brooks, par exemple, dans un film de 1941, même si on remonte encore plus loin, qui s'appelle Elsa Poppin, qui est un film complètement délirant. Si vous avez l'occasion de le voir, le film se trouve, c'est un film qui déjà cassait un petit peu le quatrième mur, qui avait conscience d'être un film, qui s'adressait aux spectateurs, etc. Mais c'est vrai que les Zucker, Abraham Zucker, ont réussi à faire quelque chose de tellement, encore une fois, intense, énergique, qu'on sort des films complètement épuisés et ravis, comme Après l'amour, finalement.
Pas je toujours. Sais pas, on n'a pas encore fait l'amour ensemble.
Oui, c'est un peu présomptueux, excusez-moi.
C'est présomptueux, on ne sait pas. Hein. Stefano D'Arquino, vous avez donc fait une rétrospective à la Cinémathèque, et ça m'a surpris, parce que jusque pendant très longtemps, en fait, c'était vraiment le genre de film qu'on n'osait pas présenter aux critiques de bon aloi. Donc comment c'est venu cette décision ?
Elle vient de fait que c'est des cinéastes qui m'intéressent depuis longtemps. Moi, j'ai fait une thèse de doctorat qui traitait de Zaz. Et je pense que en effet, il y avait quelque chose. Un vide qu'il fallait remplir, parce que, notamment au début de leur carrière, les Zucker, Abraham Zucker, ils ont une cohérence stylistique quand même, et aussi une cohérence de mise en scène, qui fait que ils ont aussi inventé un style qui a beaucoup été imité par la suite. Et il méritait quand même, je pense, d'être valorisé à l'aide d'une rétrospective, parce que si on les analyse aussi avec un peu les méthodes d'analyse de la politique des auteurs, par exemple, ils rentrent parfaitement là-dedans. On peut très bien les considérer comme des auteurs. Ils sont à la fois scénaristes et réalisateurs. Et voilà, il y a une cohérence dans la première partie de leur carrière qui m'a semblé important de valoriser. Et puis, j'en profite pour dire juste un tout petit truc, c'est que, à mon avis, il y a une spécificité quand même, quelque chose qu'ils ont absolument inventé et qu'on trouve nulle part avant eux, c'est le fait qu'ils ont inventé un humour cinématographique sans acteur comique. Oui. C'est les surtout leur film manifeste dans ça, c'est « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?»
Et c'est quelque chose qui... dont on a entendu un extrait. Oui,
exactement. Et c'est quelque chose dont, qu'on voit aussi dans une version même poussée à l'extrême d'un Top Secret, c'est le fait qu'ils font appel à des acteurs, actrices qui ne viennent pas du milieu de la comédie, ni du cinéma comique. C'est des acteurs, actrices qui viennent plutôt de rôles dramatiques, que ce soit à la télévision ou au cinéma, et leur demandent de jouer au premier degré, parce que finalement, les gags, elles viennent de la mise en scène. C'est un peu la réalité autour des personnages qui est manipulé de manière comme ça. C'est les réalisateurs en fait eux-mêmes qui s'amusent à manipuler la réalité et à jouer aussi avec les codes de la mise en scène, avec les codes de qu'est-ce qu'un produit hollywoodien classique, de le saboter tout le temps. Et ça, c'est surtout les tout debout de leur cinéma. Et donc voilà, je pense que aussi, enfin, et je pense qu'on en reparlera, c'était la question aussi de voir que c'est un humour qui a beaucoup influencé dans le monde entier et aussi en France.
Ah bah d'ailleurs, donc, il y a un grand groupe d'humoristes en France qui les ont largement vus et s'en sont largement inspirés. Mais on va y venir. Salim, la rencontre avec l'humour des As, c'est arrivé comment ?
Alors moi, c'est arrivé avec la cinquième de notre ami P.A. son âme, Silvio Berlusconi. Je l'ai vu, je sais plus quel soir, je crois que c'était un dimanche soir, mais ça m'a vraiment choqué. Après ce film, ça a été vraiment une claque qui m'a marqué jusque maintenant. J'ai revu tous les films là pour l'émission et je me rappelle de chaque phrase, de chaque entrée, voilà, tout est riche. Ça pue le cinéma aussi, ça on l'a pas dit. C'est vraiment des gens qui aiment le cinéma. C'est pas du cynisme, on n'est pas là pour se moquer. Bon, on charrie beaucoup et tout, mais c'est vraiment de l'amour. On sent vraiment de l'amour parce qu'il y a vraiment de vraies références, de vrais hommages. Et vraiment, il y a des propositions de mise en scène que on voit rarement à l'époque. C'était, moi, je sortais des gendarmes, comme tout le monde.
Les enfants des années 80. Voilà.
On a fait les gendarmes, on a fait les Funès, on a fait les Jerry Lewis, qui était vraiment excellent. Et dès qu'on les a vus débarquer, bah, en fait, ils ont mis une tarte à tout le monde et c'était vraiment the référence de toute la cour, parce qu'on ressortait les punchlines.
Oui.
C'était pas le jour pour arrêter la colle, on l'a tous dit. Et après, j'ai eu la chance aussi après de voir les films après au cinéma, parce qu'il y a les Y a-t-il un flic?
Oui.
Et j'ai vu le Y a-t-il un flic? J'ai vu le dernier Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Et là, c'était canon. En plus, il y avait Anna Nicole Smith qui était pour moi la Jessica Rabbit de l'époque. Donc de voir ça au cinéma, il y a quelque chose en fait qui globalise un peu tout ce qu'on aime au cinéma, quoi, parce que il y a tellement de richesse à l'image juste dans le générique, y a-t-il un flic, c'est fantastique, c'est un parc d'attraction pour moi là, tous les y a-t-il, hein, parce qu'il y a c'est
ouais. François Coe, c'est vrai que quand on regarde cette filmographie, on voit énormément de gags qui s'enchaînent, mais ce qui est le plus impressionnant dans leur style, c'est que ça demande des heures et des heures de préparation, de décor, juste pour avoir un gag qui va durer 2 secondes à l'écran. C'est un petit peu leur marque de fabrique. Tellement de préparation pour un tout petit gag.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et même de concocter des accessoires qui coûtent des sommes astronomiques, juste pour une blague que les gens vont peut-être rater, en fait. C'est ça, c'est l'amour du métier, c'est l'amour de la blague. Et c'est pour reprendre ça, on sent vraiment cet amour du cinéma, et c'est ce qui s'est perdu au fil des années et des imitations, et c'est ce qui est un petit peu malheureux. Et même aussi, pour répondre un petit peu à la question qui vous était posée tout à l'heure, voir les films en français, c'était pas grave, parce que là aussi, c'est assez notable pour être souligné. Il y avait des blagues de qualité. Oui. Il y avait des adaptations à la fois par les comédiens et par la personne qui était chargée de l'adaptation en français, qui étaient vraiment de qualité. Pareil, j'ai revu les films, mais pour la plupart, en fait, je les ai découverts en version originale, pour être tout à fait franc. Et j'ai réalisé qu'il y avait des blagues qui avaient été rajoutées, mais juste de façon très subtile et en accord avec le film. Notamment la fameuse blague Norberg va jouer sur l'autoroute n'existe pas en version originale. Voilà.
C'eût été dommage.
Voilà. Le problème de Boisson aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, y a-t-il un pilote dans l'avion, tout ça, mais c'est. Mais oui, c'est cet amour du cinéma qui se sent vraiment dans leur film et qui se voilà, qui se diffuse et qui se décante un petit peu au fur et à mesure. C'est un petit peu assez triste aussi quand on vraiment on fait tout l'historique des As, mais sur la fin ça devient un peu triste.
Oui.
Mais au début c'est vraiment euphorisant et galvanisant, et c'est quand on est cinéphile qu'on connaît ça. Mais même quand on connaît pas ça, en fait, c'est ça qui m'a marqué.
Mais de
aussi.
Toute façon, quand on était devant les écrans de télévision et que il y avait un film, y a-t-il un pilote dans l'avion ou y a-t-il un flic pour sauver la reine, on le regardait pas. En se disant, je suis en train de regarder une comédie, on regardait un vrai film catastrophe, ouais. Un vrai film policier, dans lequel il y avait énormément de gags, mais il y avait quand même une partie de nous qui a fait le coup, est-ce qu'ils vont réussir à poser l'avion, voilà, il y a ce pilote gonflable et dégonflable, est-ce qu'il va tenir le
pervers
qui fume la cigarette. Mais puis aussi, ce qui marque, je pense, et ce qui recouvre un petit peu tout ça, c'est qu'on ait la référence ou pas, parce qu'il y a énormément de références. Ça parodie à la fois des films, des scènes très précises, des tropes, des gimmicks qu'on retrouve dans un genre. Mais qu'on ait ces références-là ou pas, ça marche parce que les films sont tellement bien faits qu'on sent l'énergie comique derrière quand même, en fait. Et c'est des films qui se redécouvrent, je sais pas, je pense que vous êtes d'accord. Quand on connaît plus le cinéma, on les revoit et on dit, ah, voilà, ça je comprends, mais c'est pas, même quand on comprend pas toutes les références, c'est pas grave parce que le film est tellement bien fait que ça marche.
On parle des films Zaz dans Blockbuster, et il y a notamment un film qui a marqué ma jeunesse, on en a entendu un extrait tout à l'heure, Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui revisite à sa manière la fièvre du samedi soir.
Yeah.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Il ne faut plus nous torturer l'un l'autre. Tu ne vis que pour ton métier.
Toi, tu ne vivais que pour essayer de sauver la couche d'eau chaude.
Ozone, idiot. Tu n'as jamais essayé de comprendre.
Tu oses dire ça? Moi qui ai cassé ma tirelire juste pour acheter 800 hectares de forêt amazonienne, sur quoi j'ai tout fait abattre pour construire notre nid d'amour?
Franck, comment peux-tu être si insensible?
Insensible? Tu crois que c'était rien de déporter toute une tribu d'Indiens? Essaie donc pour voir.
Très bien, restons-en là, comme je regrette. Oh, j'ai eu bien tort de venir. J'espérais tant te voir calmé et heureux avec une âme sœur.
Je n'ai pas d'âme sœur. J'aime mieux être seul. J'ai jamais culbuté autant de filles depuis que j'étais scout. C'est vrai, à l'époque, j'avais des tas de coquines.
Un extrait de Y a-t-il un flic pour sauver le président, deuxième adaptation en long métrage de la série Police Squad. Une discussion entre le héros Frank Drebin, joué par l'immense Leslie Nielsen, doublé par Jean-Claude Michel, et Jane, joué par Priscilla Presley, et doublé par Céline Monsara, la voix de Julia Roberts, encore elle qui était à cette table la semaine dernière. À la base, ce trio Zucker, Abraham, Zucker, c'était des humoristes. Ils avaient une troupe de théâtre, le Kentucky Fried Theater. François Coe.
Absolument, absolument. Il y a quelques extraits que vous pouvez trouver sur la toile. Ça reposait sur cette dynamique assez absurde et sur la parodie. Alors il y a un extrait restauré en particulier, si vous êtes anglophone, allez-y, c'est un petit régal, parce qu'en plus on les voit, ils apparaissent dans chacun de leurs films, ils font des petites apparitions quasi hitchcockiennes finalement. Mm-hmm. Et il y a un sketch de 4 minutes où on les voit faire un défilé de mode, mais complètement décalé, où ils représentent un petit peu des personnages archétypaux de l'époque, et où ils le font avec des grimaces, mais de façon assez volontaire et assez speed et assez marrante. Et c'est ce qui a... Ils ont vu que cet humour-là marchait, en fait, parce que c'est un humour de troupe, de bande, de jeunes garçons qui ont vu beaucoup de films, qui ont utilisé les mêmes revues, etc., et qui riaient un petit peu aux mêmes choses. Et qui, voilà, qu'ils ont adapté dans leur premier film, Kentucky Fried Movie, qui a été plutôt bien traduit en Hamburger Film Sandwich en français, et réalisé par John Landis, pour le coup.
Oui, un grand nom.
Voilà. Avec des fortunes diverses, mais
oui, un grand nom. Mais à l'époque, en 77, c'était un nom qui pesait.
Ah, c'est quelqu'un qui a révolutionné la comédie à l'américaine aussi, qui a...
Bon, c'était un film à sketch.
Voilà, tout à fait. Film à sketch qui faisait suite à son premier, qui s'appelait Schlock, bon, qui était un peu moins réussi. Mais non, il était vraiment sur une lancée. John Landis, il a fait ça. Après, il a fait Animal House avec John Belushi. Il a quasiment posé les règles de la comédie étudiante. Et puis, il a fait les Blues Brothers. Enfin, il était sur une ascension stratosphérique.
Voilà. C'est vrai que quand il est contacté Stéphano. Par les As, il est pas encore, l'indice, il est pas encore aussi célèbre que par la suite. En fait, les As, ils étaient surtout étonnés du fait que lui, il avait déjà réalisé un long métrage qui était Schlock, qui était presque un peu autoproduit. Et ils se sont dit, si quelqu'un jeune comme nous a déjà réalisé un long métrage, il faut que nous aussi on s'élance dans un long métrage, parce qu'ils avaient déjà cette expérience qui continuait de Kentucky Fried Theater. Et ensuite, c'est grâce au succès de ce film-là, de Hamburger Film Sandwich, c'est un film qui a ouvert les portes d'Hollywood à tous les quatre, à la fois aux As et
à John Landis,
qui pour la suite pourra faire comme ça un film un peu plus hollywoodien qui est Animal House. Mais ils vont plus jamais travailler ensemble, parce que lors du tournage, ils se sont un peu embrouillés, et c'est pour ça aussi que par la suite, les As, ils ont voulu toujours être réalisateurs de leur propre scénario et pas de demander à quelqu'un d'autre de réaliser leur film.
Salim, on peut évidemment pas nier l'influence qu'ont eu les films Zaz sur les Nuls en France, sur l'équipe autour du Grand Détournement, de Michel Hazanavicius. Est-ce que les Nuls sont la version française des Zaz? Parce que je sais que même quand j'ai annoncé ce sujet auprès des auditeurs et auditrices, tout le monde a dit « Ah bah voilà, on va peut-être rendre à César ce qui est à César ».
Oui, mais je trouve que c'est un bel hommage. Je trouve que les Nuls, ils ont fait quand même du bon boulot. La Cité de la Peur, les sketchs sur Canal+, sur Nul par ailleurs, étaient vraiment excellents. Ils ont quand même marqué leur époque. Et on voit encore jusque maintenant que Alain Chabat, il fait du très bon travail avec Astérix, oui. Par exemple. Voilà, c'est quand même du gros niveau. Même Michel Hazanavicius avec OSS. Il y a quand même un bel héritage en France qui a été bien respecté par rapport à ça. Et je trouve qu'on est bon aussi dans l'absurde. Malheureusement, les films qui nous sont proposés au cinéma ne sont pas de cet acabit. On aurait pu avoir quand même de plus belles choses. J'ai l'impression qu'on se retient un petit peu en France par rapport à ce genre d'humour. Il y a je suis désolé, j'ai oublié le nom du film avec Didier Bourdon qui est passé récemment au cinéma, qui était aussi absurde, qui était passé l'été dernier ou deux étés.
36 Clés des Orfèvres ou enfin, ouais, voilà. Pas 36, mais 38, ouais, voilà. 5 Clés des Orfèvres.
C'est ça.
Il y avait 2 degrés de plus.
C'était une petite tentative, mais j'ai l'impression qu'ils sont sclérosés. C'est plus la même liberté qu'avaient les Nuls, par exemple, par rapport à Cité de la Peur, qui est vraiment... comme disaient les jeunes, un banger, quoi.
Oui, oui.
Le banger de l'époque, et quand même un porte-étendard pour la France au niveau de l'humour absurde. Et je pense qu'il nous faut un peu plus que de l'humour un peu premier degré, avec tout le temps un peu les mêmes thématiques qui reviennent, etc. Et j'aimerais bien qu'il y ait un producteur qui ait le courage quand même de remettre un film comme ça, de ce niveau, et où on se lâche, quoi. Et nous, on a besoin de se lâcher en ce moment, c'est un peu dur. Donc il faut lâcher les chevaux, que tout le monde s'éclate au cinéma.
Oui, parce que mine de rien, Stefano, c'est des productions qui coûtaient quand même assez cher, parce que comme on le disait, pour un gag, s'il faut reconstruire une gare, s'il faut construire un téléphone énorme ou ce genre de choses, ça coûte.
Oui, tout à fait, c'est des grosses productions. Si je dis pas de bêtises, pour Y a-t-il un pilote, c'est quelque chose autour de 15 millions de dollars, et pour Top Secret, les budgets même doublaient, justement, pour créer tous les gags mirabolesques qui constituent ce film-là, et c'est et oui, et c'est des films des studios auprès de Paramount. Jusqu'à quand, en effet, l'échec un peu commercial de très ambitieux Top Secret. Après,
à Top Secret, par rapport à Airplanes, enfin, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, a été un échec au cinéma?
Oui, c'est un moment où ils ont dû se réinventer. C'est pour ça que pour la suite, je pense que c'est vraiment un film qui a un tournant dans leur filmographie, parce que pour la suite, ils se tournent un peu plus vers un film comique un peu plus conventionnel, de quelque manière, vers une comédie. Oui, il y a toujours un peu leur style, mais disons que la saga Y a-t-il un flic, c'est à nouveau un film qui est porté par un acteur comique. C'est Leslie Nielsen, parce qu'entre-temps, il est complètement changé. Il n'est plus quelqu'un qui, pourtant, il venait de dramatique. Il devient un véritable acteur comique, héros comique, depuis le premier film de la saga, et puis dans toute la saga, avec... Des grimaces, des chutes burlesques, les côtés maladroits aussi.
Oui.
Où en fait, c'est plus. Les gags, ils viennent plus de la mise en scène, mais parfois, ils sont créés par. Causés par l'acteur lui-même. C'est un peu le concept de.
Oui, parce qu'initialement, même dans Top Secret, il y a encore quelque chose dans la conception du cinéma qui est très proche de celle d'un Jacques Tati. Presque cadre large dans lequel un acteur. Et quel acteur? Parce que c'était quand même un des premiers rôles, si ce n'est le premier rôle de Val Kilmer, si je ne m'abuse, qui en plus est extrêmement drôle et donne tout dans Top Secret, c'est-à-dire que il chante, il danse, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il avait déjà une vis comica qui a été très rarement utilisée, parce qu'on pense à lui dans Heat, on pense à lui dans Top Gun, mais c'est Val Kilmer, c'est aussi Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black, c'est aussi Matt Martigan dans Willow, et il est drôle.
Il est hilarant, il chante super bien, il a une présence qui émule à la fois son modèle le plus évident dans Top Secret, qui est Elvis Presley, et en même temps, il a, comme vous dites, une vis comica, enfin il a vraiment quelque chose de très intense, quoi. Et c'est fou, c'est-à-dire que c'est un acteur qui aurait pu commencer comme étant le premier rôle du Dune de David Lynch, qui commence dans Top Secret, mais qui a quand même une carrière derrière, effectivement, où on oublie ça, alors que dans ce film, pour l'avoir revu, il est vraiment monumental, il est hilarant, enfin il fait passer énormément de choses, et en plus il a une performance extrêmement physique. Enfin, ses numéros de danse, justement, à la Elvis, où il va dans tous les sens, où il harangue la foule, la bagarre finale sous l'eau.
la bagarre finale sous l'eau, oui.
Énorme.
Alors pour les auditeurs qui ne l'auraient pas vu, il y a une bagarre, les deux personnages, les deux protagonistes tombent dans l'eau et il y a un saloon au fond de l'eau, bien évidemment, et ils se battent dans le saloon sous l'eau. Donc voilà, mais donc ce qui n'a absolument aucun sens, hein, parce que on les voit en train de faire des bulles tout en se fragassant des tables.
C'est
de saloon
avant l'heure.
Voilà, c'est. Mais voilà, c'était ça aussi.
Et surtout, il a cet équilibre-là, en fait, qui est très propre au Zucker, Abraham Zucker, comme vous le disiez, en fait. C'est-à-dire qu'il est très sérieux dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas le côté déconnant qu'on pourront avoir d'autres acteurs dans les Sky Movie 3 et 4, dont on reparlera peut-être
oui,
tout à l'heure.
On n'est
pas obligé. Si,
donc, si, comme... ah, si, quand même.
Okay, okay.
Si, on monte et des fois on descend. Une grosse partie de l'humour des films Zaz vient du décalage. Et ici, sur France Inter, on a eu un grand maître du décalage qui a officié cette saison à la matinale, Philippe Catherine, qui nous interprète Une chambre à moi.
Chambre à moi mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Mais rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Un ara illichère. C'est un perroquet tout vert, aussi vert que mon jardin, devant ma chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue du saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Je voudrais une chambre à moi, mais sans angle 3. Un bouquet de mimosa, une grande table en bois. Et rien d'autre que ça, une chaise et un lit. Et sous mes pas, du marbre d'Italie. Je voudrais une chambre à moi avec la loggia. Un piano, des feuilles, des crayons de bois. Ma guitare Yamaha est vue sur la mer. Dans un jardin plus vert qu'un ara illichère. Je voudrais une chambre à moi. Je voudrais une chambre à moi, comme dit Virginia. Je pourrais jouer mon saxophone sans fatiguer personne. Je jouerai mon saxophone. Quand je joue, c'est pour personne. Quand je joue mon saxophone, c'est pour personne.
Frédéric Sigrist.
So far, so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
Peut-être vous étonnez-vous de la coupe de mon pantalon, mais c'est le tissu qui est venu à manquer. Il y en avait juste assez pour aller aux genoux. Alors me faites pas chier. Bien. En vous voyant tous ici devant moi, jeunes gens, je me dis que je donnerais ma chemise pour avoir 20 ans de moins et être une femme. Messieurs, j'ai moi-même à mon tableau 96 missions et j'ai été descendu chaque fois. Et quand j'y pense, en fait, j'ai jamais atterri avec mon avion. Les gars, vous êtes appelés à piloter les plus beaux fleurons de notre arsenal aéronautique. L'Oscar EW 5884, notre nouveau bombardier phalloïde et tactique. La conception futuriste de ses ailes en fait un appareil élégant et facile à manœuvrer. Son équipement haut de gamme allie confort, sécurité et armement sophistiqué avec une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre. Idéal pour la vitesse et les acrobaties, il est doté en série du système de radar 3822 de chez Pauline Rubinstein.
On vient d'entendre une scène du film Hot Shot sorti en 1991 avec Lloyd Bridges, un grand habitué des Zaz. Il est doublé en français par Raoul Delfos. Alors là, on a un petit peu avancé dans le temps, évidemment, mais on va repartir en arrière à l'époque de cette série de films Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président, et à la base, Frank Drebin est un personnage de série télévisée. Il a commencé sur le petit écran, pas sur le grand. Stéphano ?
Oui, tout à fait. C'est un projet de série télé. C'est là la naissance du personnage de Frank Drebin. C'est la série,
Police Squad.
Police Squad, merci. Pour laquelle les As choisissent justement, ils veulent appliquer leur même pratique qu'ils avaient fait pour Y a-t-il un pilote dans l'avion, faire de l'humour sans acteur comique. Ils vont l'appliquer au format télé avec cette idée de faire à peu près la même chose, mais avec, disons, la série télé policière. Et ils reprennent le personnage l'acteur de Leslie Nielsen, qui avait joué les docteurs dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, pour lui donner finalement le rôle de protagoniste d'un police squad, mais toujours en lui demandant de jouer au premier degré.
Mais Samir, Frank Drebin, c'est le héros de toute une génération. C'est-à-dire que, moi j'ai vu je sais pas combien il y a de films avec lui, où dès qu'il apparaissait à l'écran, on savait que ça allait être nimp.
Ouais, c'est vrai qu'il a ce visage hyper sympathique du vieux pépé un peu tonton, qu'on aime beaucoup. Et en même temps, il est tellement gaguesque juste avec son visage, ce petit truc pince son rire. En fait, il va pas nous faire rire. En fait, c'est vraiment son langage corporel plus le visage. C'est toutes ses mimiques, tout ce qu'il fait au niveau des gaffes. À chaque fois, il a ce regard envers ses coéquipiers. Parce qu'on cite pas aussi, c'est important de citer le trio parce qu'il y a aussi Ed et Norberg.
Oui, Norberg, avec le tristement célèbre O.J. Simpson.
Non, on savait pas qu'il était problématique à l'époque. Oui. Et en tout cas,
il est plus que problématique. Hein.
C'est ce qu'on disait juste avant l'émission. C'est vrai qu'avec ce visage-là, il a tellement un visage de pote que j'ai vraiment pensé que ça allait mal tourner pour lui. Mais enfin, ces trois-là, c'est vraiment un trio.
Ça a plus mal tourné pour sa femme que pour lui.
Oui, évidemment. Mais voilà, c'était vraiment un trio et... c'est une personne en fait vraiment qui nous a marqué et qu'on voit aussi les posters quoi directement. Bah on est heureux de le voir, qu'on voyait les films qui défilaient, les posters au cinéma, etc. Là vraiment c'est l'homme qui porte la franchise. C'est vraiment c'est pour moi une des meilleures trilogies à mettre à la postérité quoi.
Et alors pour contredire mon édito, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il allait avoir un nouveau Y a-t-il un flic, cette fois-ci interprété par son fils Liam Neeson, le fils de Frank Drebin, avec d'ailleurs il n'y a que des fils hein, dans ce commissariat vu qu'on les voit tous devant les photos de leurs pères respectifs, et notamment le fils d'O.J. Simpson qui lui ne pleure pas du tout parce que lui il me manque pas mais c'est plutôt un ovni en 2025 de faire revenir la franchise Y a-t-il un pilote, François ?
Ouais, je suis plutôt confiant. Parce que ils ont compris en fait ce principe dont vous parliez de Stéphano, de prendre des acteurs sérieux. Liam Neeson, effectivement, c'est quelqu'un qui a un potentiel comique, qui a fait des apparitions assez hilarantes, notamment dans une série de Ricky Gervais. Mais voilà, où il est très sérieux.
Il est très sérieux, oui.
C'est le problème.
Où il parodie en fait. Son personnage de Taken, voilà. Et fait « je vais te retrouver, je vais te briser
». Oui. Et ce qu'on a pu voir comme image, justement, de cette nouvelle version de Y a-t-il un flic, ça corrobore un petit peu ça. Mais pareil, Le fils du personnage qui était joué par George Kennedy, c'est l'acteur Paul Waterhouser qu'on a pu voir dans l'affaire Richard Jewell de Clint Eastwood. Donc il y a ça, et l'équipe derrière, c'est le réalisateur, c'est Akiva Schaffer qui fait partie du groupe Lonely Island, donc qui est lié un petit peu au SNL et qui surtout a fait un film qui est assez hilarant.
Le SNL étant le Saturday Night Live.
Voilà, tout à fait.
Voilà, une émission d'humour et plein d'humoristes très talentueux aux États-Unis.
Tout à fait. Et qui a eu un épisode pour la version française. c'est tout, qui est passé un jeudi. En plus, c'était bizarre, mais voilà, passons. Et, mais c'était drôle, c'est dit. Et il a fait deux films, un film indépendant très bizarre, mais très attachant, qui s'appelle Hot Rod, et il a fait un film qui n'est pas vraiment dans l'esprit Z à Z, qui est plus une espèce de parodie en soi, qui s'appelle Popstar Never Stop, Never Stopping, et avec une fausse célébrité qui devient complètement incontrôlable, qui est jouée par Andy Samberg. Donc moi, je suis plutôt confiant, parce que dans le paysage comique américain actuel, qui est assez... désastreux, c'est les gens qui, voilà, qu'il fallait contacter pour ça. Après, on verra, on jugera sur pièce, évidemment.
Moi aussi, j'ai hâte de voir ce film, et comme vous venez de dire, il y a une continuité, parce que The Lonely Island, ils s'inspirent eux-mêmes de Weird Al Yankovic, de ses parodies des clips musicaux. Weird Al, qui était un grand fan des Zaz et qui était complètement biberonné à l'humour Zaz, donc il y a en effet une continuité. En espérant qu'il y a derrière une, peut-être en tant que réalisateur, j'espère qu'il aura des idées tout aussi fortes que par exemple David Zucker pour le deuxième de la trilogie, Y a-t-il un flic pour sauver les présidents, où il avait vraiment voulu mettre son humour au service d'un message écologiste, parce que comme on a entendu dans les extraits qui est hilarant, mais en effet ça donnait un très bon exemple de comment ce film-là, il voulait traiter aussi des sujets qui étaient assez à l'avant-garde à l'époque, la question de l'environnement, de la couche d'ozone, et au final, David Zucker, à cette époque-là, pour ce film-là, il avait voulu vraiment faire un film personnel où il avait dit « je vais faire un film contre les lobbies du nucléaire, du pétrole et du charbon oui. ». Mais pourtant, c'était un film à gros budget, financé par un studio hollywoodien. Il avait réussi à financer ça justement en disant « ça va être quand même un blockbuster comique, ça va cartonner ». On verra voir.
Et en plus, c'est des films.
Sommet les mondes, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce c'est des films qui peuvent être très très puissants en termes de satire, mais qui peuvent aussi même nuire au film qu'ils parodient. Parce que par exemple, moi je sais que je suis incapable de revoir Les Incorruptibles de Palma.
Oui, ça se marrait.
Sans repenser à la parodie qui en a été faite par les Zaz, avec ce landau qui descend les escaliers et au ralenti. Et maintenant, je revois forcément Franck Drebin.
Et O.J. Simpson qui fait un home run.
Simpson, voilà, qui fait un home run avec un bébé. Enfin, c'est très difficile pour le film d'origine de se remettre de ce genre de détournement.
Puis c'est très rare de voir des vieux films avec Leslie Nielsen aussi.
Oui.
Enfin, après, il a pas eu la carrière peut-être qu'il méritait, je ne sais pas, c'est discutable évidemment, mais il a fait un classique de science-fiction notamment qui s'appelle Planète Interdite. Mm-hmm. Moi, ce film me fait hurler de rire. Alors qu'il n'y a pas de gag, mais c'est juste parce qu'il y a de Leslie Nielsen.
Parce qu'il est là.
Voilà.
Mais on sent quand même qu'il est heureux d'avoir fait ce genre de rôle et il porte son personnage et on sent vraiment que c'est l'éclat sur le tournage et il aime ce perso. Enfin, ça transpire, moi, quand je le vois, même on l'a pas signalé aussi, Priscilla Presley qui est complètement à contre-emploi aussi, oui. qui cartonne aussi et qui fait quand même les trois films et on sent vraiment qu'il se donne à fond. Ils se font humilier dans tous les sens, mais c'est tellement génial que ce mec...
Voilà, vous l'avez dit, c'est tellement génial de se faire humilier. Joie, allégresse et bonne humeur, c'est notre mantra aujourd'hui dans Blockbuster. Et de la bonne humeur, il y en a aussi dans ce titre de Parcells, You Got Me Feeling. Hey. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm just outside. You got me feeling like I won't even like it. You got me feeling.
You got me feeling like I'm invited. You got me feeling like I'm don't.
Blockbuster sur France Inter.
Allô ?
Au studio.
Quoi ? Dans le séjour ?
Exprès.
Qui est gay ? Allô ?
M'entends là.
Quoi ?
Ah, m'entends ?
Si on veut.
Et là, t'entends ?
Oui, c'est parfait.
7 jours.
Dans 7 jours ? Oh mon Dieu, je vais mourir lundi prochain ?
Oui. Non, attends, lundi, ça fera 7 jours ouvrables. C'est 7 jours tout court.
Donc 7 jours à compter de maintenant ? Ma montre ne marche plus, comment je connaîtrai l'heure exacte ?
On oublie l'heure, 7 jours à compter d'aujourd'hui.
Mais il y a un jour férié la semaine prochaine, faut le compter, celui-là ?
Ça dépend, c'est en l'honneur de qui ?
Martin Luther King ?
Alors non.
Mais pourquoi ? Moi, à mon boulot, il n'y a personne qui travaille.
Putain, je suis déjà gentil de te donner 7 jours. Je peux rappliquer et te buter tout de suite si tu préfères.
On vient d'entendre un court extrait de Scary Movie 3 qui, contrairement aux deux premiers, qui était signé Keenan Ivory Ryans, est réalisé par un tiers des As, David Zucker, et vous avez sûrement reconnu Anna Faris, doublée par Barbara Vilsange en version française. Alors effectivement, le trio Zucker, Abraham Zucker, s'est séparé. On a notamment Jerry Zucker qui a réalisé Ghost, film qui a eu un succès énorme, histoire d'amour avec Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Demi Moore, mais c'était vraiment pas le genre de film sur lequel on attendait un membre des As.
Non, effectivement. Mais au point où la scène emblématique de Ghost a été donc la poterie sensuelle,
oui.
Voilà, a été parodiée dans un Ayatil après. Enfin, mais oui, effectivement, on l'attendait pas du tout là-dessus. On l'attendait pas du tout sur Lancelot avec Richard Gere non
oui,
plus.
Oui, oui.
Pourtant, il l'a fait.
Sean Connery également.
Pourtant, il l'a fait.
Oui, pourtant. Voilà. Oui, oui. Et on laisse. Oui, le silence qui suit dit. Et pourtant, il l'a fait.
Voilà. Et après, Jim Abrahams et David Zucker ont poursuivi des carrières chacun de leur côté. Ils sont restés très amis. Hein.
Alors, il y a eu Hot Shot voilà. 1 et 2, qui ont quand même été aussi marqués. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai ma petite préférence pour le 2 quand même.
Bah, moi aussi, ouais, évidemment, voilà. Avec Ramona.
Voilà.
Mais oui. Charlie Sheen et Ramona. C'est...
Oui, il est dément, il est délirant ce film.
Mais oui, il y a aussi Rowan Atkinson, si je ne m'abuse,
oui,
qui joue le mari de Ramona et qui sait pas prendre des photos.
C'est ça.
Voilà, sans spoiler, voyez le film et. Mais oui, c'était de très, très bons films. Mais ils étaient restés dans la même mouvance que ce qu'ils avaient déjà mis en place avec les Y a-t-il un flic ? Est-ce que Jerry Zucker a eu envie d'avoir ses lettres de noblesse avec des films dits plus sérieux ?
Je sais pas si c'est des lettres de noblesse vraiment, mais c'est en fait ils se sont lassés du système tripartite, on va dire, enfin de diriger un film à trois, parce qu'en plus les studios étaient pas franchement conscients avec cette méthode-là, c'est-à-dire que en plus ils avaient pas, enfin voilà, les salaires étaient plus ou moins divisés en trois, ils avaient les intéressements sur les films qui étaient d'assez gros cartons aussi, étaient beaucoup plus compliqués à avoir, donc ils se sont dit si on persévère dans la voie cinématographique on va partir chacun de notre côté. Alors sur les premiers Y a-t-il un flic, c'était David Zucker qui assumait la réalisation et les autres en fait avaient l'étiquette de producteur exécutif, et après enfin ça s'est réparti un petit peu comme ça. Ils ont eu des carrières qui voilà, plus ça avançait, plus c'était un petit peu triste, en fait, quoi.
Oui, puis David Zucker, lui, a eu un chemin idéologique et moral
complètement... très, très paradoxal et très américain, en fait, finalement, quoi.
C'est, il est devenu full républicain, lui.
Bah, ça se sentait un peu, quand même. Il y a certaines blagues dans certains de leurs films précédents. Alors, eux se targuaient, en fait, de taper un petit peu sur tout le monde, comme dans l'esprit South Park, finalement. Mais quand
qui sont des, comme il a été dit dans le répondeur, qui sont des descendants de l'esprit Zaz aussi.
Oui, aussi, oui. Des Zaz, des Monty Python aussi. Les influences qu'il revendique et Zucker, en fait, comme vous disiez, il avait se décrivait comme quelqu'un voilà, un peu plus, avec une sensibilité un peu plus libérale, donc démocrate, avec très très préoccupé d'écologie, mais il est devenu ce qu'il appelle lui-même un républicain du 11 septembre. Il y a eu le 11 septembre et pour lui ça a complètement chamboulé son système de valeurs, et il a fait des spots pour le parti républicain. Pour lui, les démocrates c'était l'ennemi, en fait. C'était les gens qui voulaient détruire les États-Unis. Il a participé à Scary Movie 3 et 4. C'était plus des commandes qu'autre chose. Et c'est des films qui, voilà, on a entendu des extraits de la VF. Il y a quelques bons gags dans les films, mais c'est des films qui sont assez triste et complètement déconstruit et totalement cynique et opportuniste par rapport à ce qu'il faisait.
Même si je défendrai Anna Faris jusqu'à la fin des temps, car jamais je n'ai vu une comédienne donner autant de sa personne pour faire n'importe quoi.
Une statue pour Anna Faris.
Oui.
Gros c'est respect. Vrai, et puis la saga, Scary Movie, finalement, c'est sa saga.
Bah, c'est elle.
C'est les personnages qui reviennent dans tous
les films. Elle mérite et il faut lui rendre hommage.
Ah oui. Oui,
un blockbuster sur Anna Faris.
Ah ben, franchement, non, mais elle mérite parce que elle a vraiment mouillé le maillot. Et moi, je rigole toujours énormément quand je la vois courir en imitant Neve Campbell, Sydney dans la franchise Scream. Et qui part comme ça. Ah,
quel cri.
Et le dernier film dans cette mouvance qu'a réalisé David Zucker, c'est un film qui n'est pas sorti en France, même s'il a été distribué à l'époque par Vivendi. Très curieux. Mais ça s'appelle An American Carol, qui est donc une extrapolation sur le mythe de Scrooge, le Noël de Scrooge. Vous voyez, c'est cet homme qui voit les fantômes des Noëls passés, qui apprennent à devenir quelqu'un de bien. Et sauf que là, c'est une parodie de Michael Moore, qui va rencontrer le général Patton, qui va rencontrer des politiciens comme Kennedy ou Washington, qui lui mettent des baffes en lui disant « Mais arrête d'être un mauvais Américain, aime les États-Unis, arrête de vouloir détruire les États-Unis. » Et c'est un film qui est complètement dans la lignée Zaz, avec beaucoup de gags très méchants, très hargneux, très revanchards, en fait, comme ce qui se fait dans des productions alt-right américaines contemporaines. Donc c'est un film qui est tristement précurseur des films qui sont produits par quelqu'un comme Ben Shapiro, par exemple, qui sont des films bêtement haineux, méchants et encore une fois revanchards. Et c'est vraiment très triste de voir ça, même s'il y a quelques petits restes, on va dire, des As là-dedans. C'est un film qui date de la fin des années 2000. C'est la fin des As pour tout. Mais voilà, faut pas rester là-dessus, faut pas oublier tout ce qui a été fait avant.
Et les Gémères d'Assonu de son côté. Allez,
jamais.
Et où en est la comédie pure sur grand écran? Parce que j'ai vraiment l'impression que, comme je disais en édito, que désormais c'est la chasse gardée des plateformes, mais que sur grand écran, au cinéma, on n'ose plus forcément se lancer là-dedans. Quel est votre point de vue là-dessus pour terminer?
Le problème, c'est que le style parodique à la Zaz, en fait, a été complètement dévitalisé par... Je vais pas accuser des personnes en particulier, mais il y a des gens qui ont participé, qui ont travaillé sur le premier Scary Movie, enfin qui ont pas vraiment écrit la version de ce qui a été filmé, mais c'est des gens qui ont travaillé sur un film avec qui sont lancés sur un film qui s'appelait Agent 00 en français, Spy Hard, avec Leslie Nielsen, et qui étaient deux scénaristes qui sont devenus réalisateurs, qui s'appellent Aaron Selzer et Jason Friedberg, et qui ont fait des films qui sont sortis, il y en a quelques-uns qui sont sortis en France, Spartatouille, Sexy Movie, etc.
Oui.
Et c'est vraiment...
C'est eux.
C'est dur.
Le
c'est
degré
dur.
Zéro de la comédie et de la parodie. C'est on prend un truc, on rajoute un prout, une chute et voilà.
Bah, il n'y a plus grand chose au niveau de la distribution, je trouve, qui arrive jusqu'à chez nous. Moi, je crois que le dernier que j'ai vu en salle, c'était le challenge avec Jennifer Lawrence, qui était une très bonne surprise. Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas beaucoup, bah, le peu qu'il y a, bah, oui. ça me fait marrer.
Eh bien, merci beaucoup François. On rappelle votre podcast Discordia et votre livre Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis aux éditions Façonnage. Stefano D'Arquino, on continuera d'aller à la Cinémathèque pour découvrir de nouvelles choses grâce à vous. Et bravo pour ce que vous faites. Et Salim, Rebeu des Bois Chronicles, ça continue sur YouTube.
Ah oui, on est à fond.
On est à fond. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin. Elle a été préparée par Lisiane Arbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïn Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Benjamin Wagon. Comme toujours pour les messages, vous avez les répondeurs 01 56 40 30 20. Et si vous voulez me parler directement, vous allez sur Instagram @ou FredSigrist. Demain, on parle ensemble de la série Doudou des Millennials, Gilmore Girls.
Nick, j'ai tout essayé. L'ambassade, le gouvernement allemand, le consulat. J'ai même parlé au représentant des Nations Unies, c'est sans issue. Je n'arrive pas à faire jouir ma femme.